BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Aurélie Planès.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H sur BFM Business. Au programme aujourd'hui, Louis Schweitzer, le président d'Initiative France, premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. Il viendra nous parler de son bilan 2019, mais aussi de l'impact du coronavirus sur l'industrie. Ce sera dans un quart d'heure. À midi et demi, nous serons avec Stéphane Rosès. C'est le président de CAP, enseignant à Sciences Po et HEC. On parlera de l'allocution télévisée ce soir d'Emmanuel Macron. Que va dire le président à 20h, quelles conséquences à 3 jours des municipales? Nous lui poserons la question tout à l'heure. À 12h45, nous serons avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris Assas, pour décrypter la décision surprise hier soir de Donald Trump qui suspend pour 30 jours l'entrée aux États-Unis des voyageurs qui ont récemment séjourné en Europe, à l'exception du Royaume-Uni. Mais avant cela, Roland Aigui, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'invité de l'orage. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va revenir avec vous évidemment sur les conséquences du coronavirus sur votre secteur, mais d'abord, il est midi 2, c'est l'heure des infos avec Thomas Asportas.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous, et c'est une nouvelle journée noire depuis ce matin sur les marchés avec un CAC 40 qui dévisse de plus de 5%. Toutes les bourses européennes sont dans le rouge. On retrouve Antoine Larigaudray à Euronext. Bonjour Antoine. Est-ce qu'on se dirige vers une journée aussi catastrophique que celle de lundi dernier, le fameux 9 mars ?
Disons que ça va un petit peu mieux en cette mi-journée avec un CAC 40 qui vient de passer sous les 5% de baisse. On est à moins 4,99 très exactement, 4378. On semble s'être trouvé des points de stabilité du côté des 4300, mais les deux facteurs qui pèsent le plus sur le marché ce matin, la décision effectivement dont parlait Aurélie de Donald Trump de suspendre le trafic passager en provenance d'Europe vers les États-Unis qui perturbe alors complètement tous les secteurs du tourisme, de l'aérien, etc. Et puis également une pression continue sur les prix du brut après la décision l'Arabie Saoudite des Émirats Arabes Unis de augmenter leur production de pétrole. Et donc du coup on a un baril de brut léger américain qui est capé complètement à 31 $. À noter du côté des titres qui souffrent le plus, le tourisme, on en parlait, Accor moins 9,11%, l'aérien avec Airbus qui recule de 8,4%, tous les loueurs automobiles, hein, Europcar moins 19%, ALD moins 12%, c'est vraiment les plus fortes baisses du SBF 120, puis le secteur bancaire qui est à nouveau attaqué, Natixis recule de 9,2%, puis à noter Air France KLM évidemment qui subit tout ça de plein fouet. Le titre perd 8,9%. Un titre en hausse sur le SBF 120, c'est BIC qui s'en tire bien avec une hausse de 0,1%. Sinon, à signaler aussi la forte baisse des valeurs pétrolières, c'est Technip FMC qui est attaqué ce matin le plus. Moins 9% pour le titre. Maintenant, on attend la BCE en espérant peut-être un petit ballon d'oxygène avec des mesures que pourrait annoncer Christine Lagarde. En tout cas, on l'espère. Après les décisions de politique monétaire surprise de la Banque d'Angleterre, de la Fed un petit peu plus tôt, on espère que la BCE prendra part au concert visant à un peu aider l'économie et le système financier à travers de nouvelles mesures d'aide. Le CAC 40 donc en repli de 5%, 4379 points et l'euro 1 dollar 12,38 Thomas.
Merci beaucoup Antoine, Antoine Larigaudray en direct d'Euronext. Et les marchés qui plongent donc, on vient de le dire, après la décision de Donald Trump d'interdire pendant 30 jours l'accès aux États-Unis pour toute personne ayant séjourné en Europe dans les deux dernières semaines. La Maison Blanche qui demande également aux Américains d'éviter tout voyage à l'étranger. Les voyagistes et les hôteliers français parlent d'une catastrophe. Ils estiment que 100 000 personnes pourraient être concernées par cette mesure. Le président du Conseil européen, Charles Michel, répond que la perturbation économique doit être évitée et que la situation sera évaluée dès aujourd'hui. Rome annonce par ailleurs la fermeture dès demain de l'aéroport de Ciampino et le passage en activité réduite pour l'aéroport de Fiumicino à partir de mardi. L'Europe, qui est aussi évidemment très très attendue sur sa réponse monétaire à la crise, édition spéciale dès 13h45 sur BFM Business avec les annonces de la Banque Centrale Européenne, puis conférence de presse de Christine Lagarde à partir de 14h30. La BCE pourrait à nouveau baisser ses taux, injecter de nouvelles liquidités ou encore assouplir les règles pour les banques. Des décisions d'autant plus attendues après la baisse des taux de la Fed et celle de la Banque d'Angleterre. Et puis en France, c'est le président de la République qui prendra la parole ce soir à 20h pour rassurer et préparer les Français aux prochaines étapes, nous dit-on à l'Élysée. En attendant, les chiffres du chômage partiel s'envolent. Ce sont désormais 3600 entreprises et 60 000 salariés qui sont concernés par le dispositif pour un coût de 180 millions d'euros. Le gouvernement affirme qu'il n'y aura pas de limite budgétaire pour sauver l'emploi et qu'il est prêt à aller au-delà du SMIC pour l'indemnité horaire du chômage partiel. Bruno Le Maire évoque aussi un fonds de solidarité pour les entreprises les plus impactées et demande à BPI France de relever sa garantie de prêt au-delà de 70%. Par ailleurs, les nouvelles règles de l'assurance chômage vont être aménagées pour les travailleurs les plus précoces. Face à l'épidémie, Safran annonce qu'il va augmenter son programme d'économie. Il était de 300 millions d'euros et ce sera donc encore plus, même si son directeur général, Philippe Petit-Collin, dit qu'il est impossible d'en prévoir l'ampleur pour le moment. BFM Business, il est Médicis, à vous Aurélie Planex.
Merci Thomas, on vous retrouve bien entendu tout à l'heure à midi et demi pour un nouveau point complet sur l'actualité économique du jour. Tout de suite, Roland Aigui, le président de l'UMI, est l'invité de l'Orache.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Aurélie Planex.
Bonjour Roland Aigui, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes donc président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Lundi, Bruno Le Maire estimait que l'épidémie engendrait des baisses de chiffre d'affaires de 30 à 40% pour les hôteliers, 25% pour les restaurateurs. D'abord, est-ce que vous confirmez, vous, ces chiffres ?
Mais non seulement on les confirme, mais effectivement, nous, à l'UMI, on a mis en place un observatoire. On a des chiffres très précis dans ce domaine-là sur 3 500 entreprises. D'abord, il y en a 95% où il y a un recul de chiffre d'affaires très important depuis le 1er mars. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est aujourd'hui pour mars, sur la globalité entre l'hôtellerie et la restauration, entre moins 35 et moins 40% des chiffres d'affaires. Et bien sûr, je ne parle pas des territoires confinés, des territoires dans les clusters. Alors là, c'est absolument incroyable, comme Lourdes, l'Oise, enfin tous les territoires concernés, le Haut-Rhin.
Là, j'imagine qu'on est sur des baisses de 90%.
On est à 90% exactement, ouais, avec des sujets à régler. Alors, on le disait, on venait de l'entendre, là, l'avenir économique s'assombrit heure par heure, et j'allais dire jour après jour. Alors, le problème, c'est que nous, on ne connaît pas l'agenda de l'épidémie, vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, on connaît notre agenda fiscal et social et financier. Ouais. Et c'est là, justement, où ça bute, quoi, entre le monde de l'entreprise, le monde économique et l'épidémie. Voilà.
Surtout que dans votre secteur, j'imagine qu'il y a plein de TPE, PME qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour faire face à un coup
souvent,
d'arrêt comme ça.
Mais oui, vous avez bien raison de le signaler. On a énormément, nous, on a 80-90% sont des moins de 10 salariés, vous voyez, des PME et des très petites entreprises. C'est des entreprises, leur trésorerie, c'est la recette du lendemain. Ouais. Vous voyez. Donc, il y a énormément d'entreprises qui ne passeront pas entre les mailles du filet.
Et comment on peut empêcher ça, empêcher qu'on ait des faillites en cascade ou des cessations de paiement?
Déjà, il faut reconnaître, on rencontre Bruno Le Maire, on va encore le voir lundi, puisque tous les acteurs économiques sont autour de la table,
ouais.
Et le sujet est tellement important, puis on sent vraiment que l'exécutif en mesure de la responsabilité, est conscient. Nous, ce qu'on demande, je crois, la seule chose qu'il faudra faire, il y a des mesures qui sont amenées, j'allais dire, jour après jour. La plus importante, je crois qu'il faudra, ce qu'on a proposé, nous, alors on n'a pas encore une réponse officielle, mais il faudra que le soutien des banques, il faut qu'on ait une année blanche parce que les trois premiers mois, on ne sait pas si ça va être avril, mai, le temps de réamorcer, le temps de retrouver une image, le temps de, voyez, dans l'économie, parce que toute l'économie est touchée là, le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, le tourisme culturel, sportif, etc. C'est une débandade là, c'est une débandade.
Alors je lisais mardi que sur les 900 entreprises qui avaient fait une demande d'activité partielle, je crois que plus de la moitié étaient des hôteliers, ouais, et restaurateurs. Comment est-ce que vous les décomptez? Comment est-ce que vous vous mobilisez pour les aider?
Eh bien, c'est simple, ce matin, on a demandé, il y a 45% de ces entreprises qui sont prêtes donc à demander, donc, à trouver des facilités pour effectivement trouver du chômage partiel. Parce qu'on parle des entreprises, mais derrière on a nos salariés.
C'est un sujet
incroyable. Et ces salariés, il faut les protéger. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est que dès qu'il y aura la reprise, il faut qu'on soit compétitif de suite. Donc, il faut les reprendre. Donc, oui, alors, il y a plusieurs formes. On travaille sur, pourquoi pas des RTT, pourquoi pas de la formation, vous voyez?
Ah oui, on profite pour faire de la formation.
Pour former nos salariés, c'est très important. Et ensuite, effectivement, le chômage partiel. Alors, c'est vrai que le chômage partiel, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit, il est pris en main dès 48 heures, vous voyez. Il y a aussi dans les départements des cellules où on peut très, très rapidement se rapprocher de l'URSSAF. Il y a des reports, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant, malheureusement.
Vous avez une idée du nombre de salariés là, qui seraient concernés dans votre secteur?
Écoutez, entre l'ensemble de l'hôtellerie et de la restauration, sur le million de salariés, on peut dire qu'il y a, dans les semaines qui arrivent, il y a 50% des salariés, 500 000 salariés.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Alors, sur les mesures...
Des prises de décision, vous savez, qui sont importantes pour le chef d'entreprise. Mais ça, à un moment donné, ça va buter, c'est sûr.
Sur les mesures là, qui ont été annoncées par le gouvernement, que ce soit les dégrèvements d'impôts, report de charges sociales, simplification du recours à l'activité partielle, on en parlait. Est-ce que ça suffit? Est-ce que, selon vous, les mesures sont à la hauteur?
par étape, je dis oui, par étape, il y a une volonté effectivement de trouver des solutions. Mais la première, je crois, je reviens sur l'année blanche, quoi. L'année blanche sur l'ensemble des.
Une année blanche fiscale, vous voulez dire?
L'année fiscale, oui, sur l'ensemble, c'est-à-dire sur les emprunts, les banques, enfin, juste un report d'un an. Voilà. Ça peut effectivement permettre à ces entreprises qui sont en difficulté de refaire de la trésorerie si tout se passe bien à partir du mai-juin, mm-hmm. ensuite de repartir sur des bancs. Sans, bien sûr, en évitant toute pénalité. Hein.
Et c'est, oui, évident. J'imagine.
C'est, voilà. Et derrière, on a parlé, j'ai vu qu'on l'avait proposé déjà, ça fait 15 jours, et j'ai vu que Bruno Le Maire a reparlé de ce fonds d'indemnisation qui est important. Il avait dit que c'était possible, mais très long à mettre en place. Et là, je vois qu'il relance l'idée, et elle me paraît bonne, et il faut le faire rapidement.
Et sur l'année blanche, là, vous en avez parlé avec Bruno Le Maire.
Oui, bien sûr. Oui, mais elle va de soi. Ça, c'est un principe qui fonctionne déjà pour des entreprises avec des banques. Vous voyez, c'est une négociation mm-hmm. qui se fait avec les banques. Ça fonctionne déjà. Pour une raison ou une autre, un élément incontrôlé, vous pouvez effectivement repousser d'un an. Mais là, il faut le faire. Je crois, il faut le généraliser. Et il faut que ce soit, je veux dire, il faut que ce soit Bercy qui le demande.
Et donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas.
C'est pas encore gagné.
Bon, alors Muriel Pénicaud, elle a dit qu'elle était prête à un aménagement des nouvelles règles d'assurance chômage pour les travailleurs précaires. Bercy peut augmenter, ils l'ont dit tout à l'heure, des montants consacrés à l'activité partielle, aller à un remboursement qui serait au-delà du SMIC pour l'activité partielle. Est-ce que tout ça, ce sont des mesures qui vont vous permettre de passer cette crise?
Déjà, sans qu'elle ait de bonne volonté, passer la crise, je dis, malgré toutes les bonnes mesures, il y aura des entreprises qui vont pas échapper au dépôt de bilan.
Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Donc, je reviens sur ces deux points, donc année blanche.
Et ça suffira, une année blanche?
Ah oui, une année blanche, ça suffira, il me semble. Oui. Et puis, ça se verra l'ensemble, l'entité de toutes nos entreprises. Mais puis après,
Faut des rachats de dettes d'entreprise, par exemple, ce genre de choses?
Oui, et aussi. Mais regardez, là, par exemple, un autre exemple, c'est le début de la saison pour l'ensemble des saisonniers. Mm-hmm. Là, il y a tout un... le sort des saisonniers, puisqu'il y a eu depuis 2019, donc, on a modifié la réglementation, et aujourd'hui, que ce soit quel que soit le niveau de l'établissement qualitatif, il n'y a pas un saisonnier qui va être embauché. Voyez, alors que d'habitude, mars, avril, mai, toutes les embauches des saisonniers, c'est 300 à 400 000 chez nous, voyez, ça, le saisonnier par an. Aujourd'hui, tout est repoussé en juin si tout va bien. Ça veut dire que...
Oui, parce qu'en fait, là, vous n'avez aucune visibilité, sur les vacances de printemps qui arrivent, ni sur la saison estivale.
Pour Pâques, déjà, il n'y a que des annulations. Que des annulations. Hein. Donc, et au jour le jour, malgré des taux d'occupation, c'est-à-dire des plannings qui étaient remplis à 40-50%, tous les jours, c'est on gomme ces plannings.
Et donc, vous estimez qu'on est descendu à combien, là, sur...
Ah mais là on est en taux d'occupation en France, le taux d'occupation normalement on est à 65%, vous voyez, globalement en France. Là on est même pas à la moitié, on est même pas à 30%.
Même pas à 30% non, là actuellement.
Non. Ouais.
Et comment vous
C'est dramatique. C'est dramatique et le problème c'est que comme je disais, on sait pas quand cette épidémie on va sortir de ce tunnel. Et si on le savait, on pourrait s'organiser, on pourrait trouver des mesures, on pourrait. Là on peut pas.
Là,
on sait pas.
Est-ce que les assurances vous aident? Moi, je me posais la question de savoir s'il y avait des dispositifs pas
pour le moment,
mis en
non.
place.
Pour le moment, non. Il y a un grand silence dans leur domaine, puisque les assurances peuvent nous aider que s'il y a des dommages. Ils considèrent qu'effectivement, le virus, ce n'est pas un dommage. Donc, il faut voir. Moi, quand même, il y a quand même une petite réflexion personnelle sur moi. Malgré toutes les prouesses technologiques que l'on a, tous les experts que l'on a dans ce domaine-là, qu'un petit virus comme ça fragilise le monde de cette façon-là, ils remettent en question, qu'on s'aperçoit que par exemple la Chine est devenue l'usine mondiale, personne ne pouvait imaginer à cette échelle-là, quoi, qu'on dépende autant de la Chine en termes économiques, en termes d'importation. Ça va pas être le bienfait, peut-être qu'on va être obligé de repenser tout ça et de remodifier l'économie justement par rapport à ce virus-là, quoi.
Mais vous-même, vous êtes sur une économie qui bénéficie de la mondialisation, puisque le tourisme, de fait, vous bénéficiez des afflux d'étrangers en France. Donc, comment est-ce qu'on peut remettre ça en...
Je parle de l'économie, c'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer, par exemple, quand j'ai dit tous les secteurs économiques, que les médicaments, que la voiture dépendent autant de cette usine qui s'appelle Chine, et qu'on arrête, qu'on soit obligé d'arrêter notre chaîne de construction dans les 3 semaines, dans le mois qui arrive. Ça paraît impensable.
Et ça veut dire que selon vous, il y a des leçons à tirer, des enseignements pour être mieux préparés sur un possible prochain épisode de ce type.
C'est peut-être ce qui va en ressortir.
Et par exemple, pour votre industrie, ça passerait par quoi?
Non, notre industrie. Alors, ce qui est terrible, c'est que depuis 4 ans, on était sur des millésimes extraordinaires, le tourisme en général. Et on s'aperçoit que. On a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, et là on a l'épidémie chaque fois, et dans chaque fois on est obligé de repartir à zéro, de retrousser les manches pour redonner une belle image de nos métiers, de la France, etc., etc. Et on repart toujours à zéro, donc on passe une période très difficile, qui est vraiment dommage parce que le tourisme était venu un secteur qui était vraiment reconnu en France et apprécié.
Merci beaucoup Roland Aiguille. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'UMI, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Merci d'avoir été avec nous dans le RH. Dans un instant, Louis Schweitzer, le président d'Initiative France. À tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. Présenté par Aurélie Planex.
Et dans le RH, aujourd'hui sur BFM Business, nous accueillons Louis Schweitzer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Initiative France. Initiative France, c'est le premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs, des repreneurs et des développeurs d'entreprises. Et donc, vous venez nous présenter votre bilan 2019. Initiative France affiche un nombre record de 18 164 entreprises soutenues l'année dernière. C'est une hausse de quasiment 5% par rapport à 2018. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un dynamisme particulier l'année dernière dans la création d'entreprises, la reprise d'entreprises ?
Il y a un dynamisme de la création d'entreprises et notamment de TPE, qui est notre métier, et il faut le rappeler, la France est le recordman d'Europe de la création d'entreprises. Donc c'est un sujet de satisfaction. Cela dit, beaucoup de créateurs d'entreprises échouent, et notre métier à nous, à Initiative France, c'est de faire qu'ils réussissent, en les aidant à se financer, en faisant qu'ils se lancent dans ce qui est une aventure, une belle aventure, mais une aventure en étant bien préparé, parce que quand on n'est pas bien préparé dans une aventure, ça finit mal. Et en les accompagnant dans leurs premières années et le cas échéant en soutenant leur croissance. Donc, on fait que la création d'entreprise soit une belle aventure.
Comment est-ce que vous les accompagnez concrètement sur le plan du financement,
d'abord,
du business model
nous les aidons à préparer ce que j'appellerais le pactage pour cette expédition, c'est-à-dire s'assurer qu'ils ont un financement, le nôtre, un prêt d'honneur gratuit à la personne sans intérêt et sans garantie. Nous les aidons à obtenir des prêts bancaires. Notre prêt est en moyenne de 10 000 euros. Le prêt bancaire qui accompagne notre prêt est en moyenne d'un peu plus de 80 000 euros. Et il est obtenu avec notre appui parce que les banques nous font confiance. Ouais. Et puis, une fois que le projet est lancé, qu'on s'est assuré que l'entrepreneur et le projet vont bien ensemble, parce que c'est beau d'avoir un beau projet, mais il faut l'adéquation.
Ouais, entre les deux.
Ensuite, au long des 3-5 premières années de la vie de l'entreprise, nous les accompagnons. Nous les soutenons par des conseils permanents, par des parrainages, par des clubs d'entrepreneurs. Bref, tout ce qui fait que l'entrepreneur n'est pas seul. Et le résultat final, c'est que 3 ans après leur création, 92% de nos entrepreneurs sont toujours là, à la tête de leur entreprise. Alors que le taux d'échec pour les créations d'entreprises est beaucoup plus faible. Et tout ceci explique que, à la création, nous soutenons cette année 49 500 emplois. Oui. J'aurais bien aimé 50 000, mais enfin.
On n'est pas loin. 500, pas loin. Pas mal,
dont 34 000 emplois nouveaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des emplois préservés, comme on dit, mais créés. Diminuons le chômage en France de 34 000 emplois en une année.
Alors, c'est là que ça m'intéresse beaucoup parce que vous dites dans votre rapport, les entreprises soutenues créent plus d'emplois salariés que la moyenne nationale des entreprises en création. Comment ça s'explique ?
Alors, il se trouve que 80% des entreprises que nous soutenons ont une forme sociale et donc ont une structure juridique conçue pour avoir des salariés. En moyenne, elles ont, en dehors de l'entrepreneur, un peu moins de 2 salariés au départ.
D'accord.
Nous les suivons au-delà et nous voyons qu'au total, ce nombre de salariés par entreprise créée augmente chaque année. Parce que les entreprises que nous aidons réussissent. Et une entreprise qui réussit, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle embauche.
Et elle embauche.
Alors, je lisais aussi qu'il y avait plus de 8000 femmes financées et accompagnées en 2019 et que c'est en hausse. C'est encourageant, ça, de voir que les femmes aussi peuvent entreprendre aujourd'hui. Alors,
là aussi, elles sont une proportion plus importante chez nous que dans l'entreprise en général. Au fond, notre expérience, c'est que les femmes à la tête d'une entreprise réussissent aussi bien que les hommes. Donc, il n'y a pas de souci.
Moi, je n'avais pas de doute, mais...
Moi non plus. Mais, quelquefois, des femmes doutent d'elles-mêmes.
C'est vrai.
Et donc, nous les aidons à surmonter leur inquiétude. Parce que, je le répète, c'est une aventure. Donc, il faut être soutenu, aidé, accompagné, financé. La chose qui fait échouer beaucoup d'entreprises, c'est qu'on se lance et puis qu'on cherche le financement quand on n'a plus d'argent. Et à ce moment-là, les banques ne vous accueillent pas de façon aussi chaleureuse.
Oui, c'est trop tard, quoi, déjà. Moi, je me demandais si avec la crise du coronavirus, là, vous aviez ressenti, observé un ralentissement de la tendance à la création d'entreprises. Est-ce que ça freine, là, depuis un mois, les lancements d'entreprises? Ou il est trop tôt, peut-être?
De statistiques objectives, mais l'écho que j'ai de notre réseau, nous avons 215 plateformes locales qui couvrent tout le territoire, donc on est tout près du terrain, c'est que dans notre domaine, non, il n'y a pas de frein. Le sujet, c'est les grandes entreprises internationales avec des grands rassemblements de personnes. Et là, bien sûr, les inquiétudes existent. Mais pour une petite entreprise qui se crée, ça ne se crée pas sur une décision à coup de tête. C'est un process. Et ce process n'est pas interrompu.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Je pense au contraire, à dire le vrai, que la création de TPE est aujourd'hui dans une situation où on se demande que faire pour l'emploi. Une des réponses qui a de plus en plus de force.
Et les TPE risquent pas d'être fragilisés, parce que c'est vrai qu'on entendait tout à l'heure le président de l'UMI qui me disait que dans son secteur, l'hôtellerie-restauration, ce sont majoritairement des TPE-PME et que donc elles sont la face à des contraintes de trésorerie qui sont...
L'hôtellerie-restauration est manifestement le secteur le plus touché avec celui du transport. Tous les secteurs qui sont liés au tourisme sont massivement touchés. Cela dit, au niveau rural, local, l'impact est moins fort qu'au niveau d'une grande ville comme celle de Paris, d'une ville touristique. Donc je pense que la résilience des petites entreprises est un élément important.
D'où l'importance du maillage du territoire aussi.
D'où l'importance de l'aménagement du territoire et de la revitalisation de tout notre territoire.
Alors, vous avez aussi présidé Renault entre 92 et 2005. Vous connaissez bien l'industrie. Quel regard est-ce que vous portez sur cette crise sur le plan industriel aujourd'hui?
Bon, sur le plan industriel, disons une première chose, c'est que la logistique des réseaux de fournisseurs fonctionne. Autrement dit, il n'y a pas de rupture d'approvisionnement. Deuxième point, l'industrie automobile, vous n'achetez pas une automobile quand vous avez de l'inquiétude. Au fond, il faut un tout petit peu d'optimisme pour acheter une automobile, d'autant que les deux tiers sont vendus à crédit. Donc, quand la conjoncture dévisse un peu, l'industrie automobile souffre. Pour l'industrie automobile, toute la question, c'est combien de temps ça va durer. Si c'est 3 mois, bon, c'est pas un sujet. Si c'est plus durable, ça devient une vraie préoccupation. Alors, tout ce qu'on sait, c'est qu'en principe, les épidémies de grippe, ça s'arrête avec l'été, ou même avec la seconde moitié du printemps. Si tel est le cas, bon, on aura une année pas terrible, mais on n'aura pas de catastrophe.
Je voyais qu'en Chine, au mois de février, on avait quand même eu un plongeon de 80% des ventes de voitures. Les usines de Renault sont toujours à l'arrêt là-bas, celles de PSA aussi. Est-ce qu'on peut craindre que la même chose finalement arrive en France aussi?
Alors, il faut rappeler que les usines en Chine étaient localisées dans la province.
C'est pas faux.
où la crise était la plus forte. Deuxièmement, je l'ai dit, au printemps, en principe, le virus n'aime pas la chaleur et donc il disparaît. La prévision n'est pas la même selon que le virus décline à partir d'avril ou qu'il décline à partir de mai. Donc je ne vais pas m'avancer à faire des prévisions. Mais je n'ai pas le sentiment, je le répète, que dès lors aussi, on voit que les gouvernements, les autorités financières, vous en parlerez tout à l'heure, ont envie de soutenir l'activité et ne restent pas les bras ballants, je pense que l'économie peut redémarrer aussi fortement qu'elle a freiné.
Aidée par les prix du pétrole qui sont plutôt bas?
Le prix du pétrole bas, c'est pas quelque chose de fantastique, parce que ça va à l'encontre de toutes les préoccupations de long terme.
C'est vrai.
Mais les mesures de soutien à l'activité, on sait en faire. On sait faire que les revenus des gens qui se trouvent privés d'emploi du fait de la crise soient maintenus. C'est un enjeu essentiel. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui avait été décidé en France et qui serait décidé dans beaucoup de pays.
Et donc, selon vous, on devrait redémarrer aussi fort qu'on s'est arrêté ?
Je pense qu'on peut avoir un redémarrage et qu'on doit avoir, si on prend les bonnes décisions, un démarrage rapide dès lors qu'on verra que l'infection, l'épidémie est sous contrôle et se résorbe, oui.
Eh bien, merci pour ce message d'optimisme, Louis Schweitzer. Je rappelle que vous êtes président d'Initiative France. Vous étiez donc sur le plateau de l'Orage. On va marquer une pause. On se retrouve juste après pour les infos. Et puis, on sera en compagnie de Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, qui viendra décrypter la décision, donc qui ne vous aura pas échappé, de Donald Trump hier, de suspendre pour 30 jours l'entrée aux États-Unis des voyageurs en provenance d'Europe. Et puis, avec Stéphane Rosès, le président de CAP, enseignant à Sciences Po et HEC, on parlera de l'allocution télévisée prévue d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Aurélie Planex.
Et nous sommes maintenant avec Stéphane Rosès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de CAP, enseignant à Sciences Po et à HEC. Avec vous, on va parler de l'allocution prévue ce soir d'Emmanuel Macron à la télévision à 20h. Que peut dire Emmanuel Macron ce soir ? Quels sont les messages que le président veut envoyer ?
Comme souvent, en pareille circonstance, l'Élysée a fait fuiter des éléments sur ce que seraient les objectifs de l'exercice. Pédagogie et transparence, ont-ils annoncé. Pédagogie parce que pour cette pandémie, les spécialistes eux-mêmes peuvent diverger. On l'a vu sur vos plateaux ou encore hier sur un plateau d'un de vos confrères. Mm-hmm. Le corps médical peut varier quant à son appréciation de ce qui se passe. Et donc, le ministre de la Santé a commencé avec talent à faire œuvre de pédagogie, expliquer ce qu'était cette épidémie devenue pandémie pour l'OMS et la façon dont, au fond, le gouvernement allait prendre en compte les choses. Transparence, parce qu'aujourd'hui, un Français sur deux pense que les gouvernants en France ne disent pas toute la vérité. C'est évidemment lié à ce que je viens de dire, c'est que les spécialistes eux-mêmes et les leaders d'opinion qui normalement devraient relayer les messages, les instructions, ne peuvent le faire. Et donc, dans ce flou, dans un moment d'inquiétude et de dépression du pays, on pense spontanément que les gouvernants savent, mais qu'ils ne disent pas. Et donc, cet exercice de transparence est absolument nécessaire, d'autant qu'il y a une contradiction, c'est que la France, comme aucun autre pays, attend du politique qu'ils préviennent les crises, qu'ils les anticipent, qu'ils les réparent correctement. Et quand quelque chose dysfonctionne, c'est d'abord de la responsabilité du politique. Or, l'exécutif et le président Macron, après les épisodes gilets jaunes, réforme des retraites, subissent un fort discrédit de la part de l'opinion. Et donc, cet exercice de transparence est nécessaire. Et puis, il faudra faire la démonstration que notre système de santé fonctionne et mieux à même de résister. Par exemple, tout le monde pense au cas italien.
Oui, bien sûr.
Évidemment, injurier nos amis italiens, mais il faudra faire cette démonstration pour le président et que les réponses sont adaptées. Car beaucoup disent, mais alors, pourquoi la France ne prend-elle pas
les mêmes mesures
draconiennes de confinement, d'interdiction ? Et là, c'est là où il y a un lien avec la pédagogie. Le gouvernement voudra sans doute dire qu'il adapte les mesures à l'évolution de la pandémie, puisque, on le sait, le pic est attendu plutôt en mai. Et qu'il faudra faire aussi de la pédagogie sur la bonne articulation entre repérer qui est atteint par le coronavirus et qui peut réellement y décéder, qui est une part minime telle qu'attendue, on le sait, les personnes âgées, les déficients ou les personnes qui, pour des raisons psychologiques ou sociales, ne prennent pas les mesures préventives nécessaires.
Alors Stéphane Rosay, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait Emmanuel Macron va ce soir peut-être reprendre un peu le rôle de père de la nation. C'est ça en fait, l'idée de rassurer, de se poser en chef, de...
Bien sûr, il y a ça, les gouvernants savent bien que dans telle situation, il y a un réflexe spontané d'union nationale face à un péril qui serait un péril extérieur. Donc il y a cette dimension politique, mais attention, là, il ne doit pas y avoir un écart entre la communication et ce qui est fait. Pourquoi ?
Absolument.
Parce que contrairement à d'autres domaines, l'économie, la politique, les Français pensent que sur le régalien, les gouvernants sont responsables de tout ce qui se dit. Donc il y a une dimension de communication politique, voire une dimension politique, mais les gouvernants savent très bien qu'ils seront jugés sur les faits et les actes. Et notamment, il y a un enjeu très important par rapport à d'autres pays, c'est que comme les Français ont le sentiment, et surtout les acteurs de santé, que notre modèle de santé est dégradé, que l'hôpital ne fonctionne pas bien, que les urgences déjà connaissent un grave problème et que les responsables sont les gouvernants qui ne prennent pas les mesures, on comprend que s'il faut libérer 40% des lits d'hôpitaux pour faire face à la pandémie, il faut du temps, il faut de la réassurance, il faut éviter les effets de panique. Donc c'est un exercice très subtil où, contrairement à d'autres moments, les gouvernants et le président ne doivent pas se laisser emballer par, je dirais, des rhétoriques ou de la communication ou éventuellement des feintes ou dissimulations. Donc c'est un exercice très pointu. Le président a les qualités rhétoriques qu'on lui connaît pour aborder ce moment, mais les enjeux sont immenses parce que ça touche toutes les sphères de la société avec des dimensions psychologiques, politiques, oui, on en a parlé, mais évidemment économiques, mais évidemment de liens sociaux et de capacité à faire face collectivement.
Et sur le plan des répercussions politiques, il ne vous aura pas échappé qu'on a 3 jours des municipales. Comment est-ce que ça peut changer la physionomie du scrutin ? On peut imaginer que peut-être les personnes âgées vont moins se déplacer pour aller voter. Est-ce qu'il faut craindre une montée de l'abstention ? Quelles conséquences est-ce que tout cela peut avoir ?
Pour l'instant, les indications des instituts de sondage sur la mesure de la participation, et c'est l'exercice le plus compliqué pour bien mesurer, c'est pas tant les votes que la participation, c'est l'ancien directeur d'institut de sondage qui vous parle, donne un taux de participation qui serait similaire à la précédente municipale. Mais pourtant, d'accord, on sait que dans leur représentation, les citoyens regardent plus le scrutin municipal que d'autres. Donc normalement, on aurait pu attendre une progression,
absolument,
de la participation. Et ce qui n'est pas très facile pour l'analyste que je suis, c'est de faire la part des choses sur l'impact coronavirus. Mais objectivement, il y a une petite difficulté, c'est que ceux qui sont amenés à se déplacer sont les plus informés, et donc sont plus attentifs à la prévention, et en même temps, les personnes âgées sont les plus susceptibles, s'ils sont touchés par le coronavirus, dans des proportions minimes, mais quand même, de devoir, je dirais, y subir des conséquences graves. Je rappelle, pour information, que la moitié des électeurs en France, du corps électoral en France, plus précisément du corps électoral en France, a plus de 50 ans.
La moitié.
Voilà. Donc ça veut dire, ça montre à quel point, alors je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a 50 ans ou 60, certainement pas 60, serait une personne âgée.
Non, bien sûr.
Mais vous voyez bien que là, ça ne va pas être très facile, mais il y aura un impact. C'est pas possible qu'il y ait un impact du coronavirus déjà sur les pratiques des Français au quotidien et penser qu'il y aurait un isolat sur le fait d'aller voter, de faire la queue avec d'autres personnes, de passer par des piles de bulletins de vote, des isoloirs. Donc forcément, il y aura un impact. Ce qui n'est pas évident de déterminer, c'est l'ampleur de l'impact.
Est-ce que ça peut favoriser un camp plutôt qu'un autre ? J'ai lu que ça pouvait favoriser les maires sortants.
Alors, la question au fond, c'est s'il y a moins de participation, qui ça peut favoriser ? C'est pas évident, parce que s'il y a moins de participation, ça risque de toucher plutôt les personnes âgées, qui sont plutôt légitimistes et qui plutôt, en général, votent pour les maires sortants. Donc pour moi, le vrai critère ne serait pas tant maires sortants ou pas, qui de toute façon sont avantagés dans ces municipales, que plutôt ceux qui sont sûrs de leur choix. Or, traditionnellement, ceux qui sont le plus sûrs de leur choix sont les plus mobilisés, et en général, ils sont plutôt à la gauche de la gauche et à la droite de la droite, les électorats les plus fluctuants étant plutôt, je dirais, dans leur choix, les jeunes et ceux qui votent plutôt pour La République En Marche et les écologistes.
Merci beaucoup Stéphane Rosès. Je rappelle que vous êtes le président de CAP, enseignant à Sciences Po et HEC. Merci d'avoir été avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Aurélie Planex.
Et nous sommes maintenant en compagnie de Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris, à SAS. Donc décision surprise hier soir de Donald Trump, qui suspend pour 30 jours l'entrée aux États-Unis des voyageurs qui viennent d'Europe, qui ont séjourné en Europe, à l'exception de, quand même du Royaume-Uni. D'ailleurs, comment est-ce que vous analysez cette décision ? Qu'est-ce qui pousse le président américain à prendre une décision aussi radicale, alors que jusque-là, on avait quand même l'impression qu'il minimisait un peu les choses ?
Alors, on n'avait pas l'impression, il minimisait les choses, et même il était à contre-courant, et quelquefois même à la limite de... d'être dangereux, il faut quand même le dire. Il a quand même eu des déclarations qui ont choqué beaucoup de monde, et beaucoup de monde dans le monde scientifique, parce que ça allait à contrario de ce que les autorités sanitaires préconisaient. Il fallait que ça s'arrête. Alors, oui, décision surprise cette nuit, puisque justement, il se remet dans les clous et il fait ce que demandent les autorités sanitaires. Il les écoute. Robert Redfield, qui est le directeur du CDC, c'est-à-dire l'agence qui s'occupe de lutter contre la dissémination des virus aux États-Unis, avait préconisé cette fermeture des frontières en expliquant que désormais, le danger, c'était les Européens. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fermé les échanges avec la Chine en interdisant les vols du côté de la Chine, mais les Chinois étaient venu en Europe. Le virus s'était transporté en Europe et ensuite les Européens le transportaient aux États-Unis. Bon, la mesure, on le sait, sur le plan scientifique, ne servira à rien. Le virus est déjà aux États-Unis. Mais sur le plan symbolique, il fallait le faire parce qu'on cherche. Et donc, ce que je retiens, moi, de cette nuit, c'est que Donald Trump est rentré dans le rang et que désormais, eh bien, il fait le porte-parole des gens qui sont autour de lui, des scientifiques à qui il a passé le bâton de maréchal.
Qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer dans le rang ?
Bah, d'abord la peur qui envahit les États-Unis et donc qui envahit également bien sûr.
C'est devenu le sujet numéro un là, ça y est.
Bah écoute, en France, vous entendez, on ne parle plus que de ça. Hein. Les chaînes d'info ouvrent le matin avec le coronavirus, on se couche le soir avec le coronavirus et on a mangé du coronavirus, si je peux me permettre de le dire comme ça.
Toute
la journée. C'est pareil aux États-Unis. Mais les nouvelles tombent brutalement aux États-Unis. Il y a encore une semaine, on était à quelques États qui étaient touchés, puis on est passé à 12, à 25, on est à 40.
1200 cas d'infection, je croyais.
Les foyers d'infection n'arrêtent pas de se multiplier. Et en même temps que le président Trump parlait cette nuit, on apprenait des nouvelles qui affolent complètement les populations. Le championnat de basket de la NBA, c'est pas rien, s'arrête tout simplement. Un des acteurs les plus en vue, Tom Hanks, est touché par le coronavirus. Une sénatrice a son attaché parlementaire qui est infectée également. Vous voyez, les nouvelles tombent toutes les 10 minutes. Et toutes ces nouvelles-là, avec le nombre de cas qui, comme en France, est décompté et n'arrête pas de monter, fait que les gens ont peur. Le président devait prendre une nouvelle stature. Il devait surtout se positionner en tant que protecteur de la nation. C'est vers lui qu'on se tourne quand ça va mal, comme nous on se tourne vers le nôtre, et tout le monde attend bien sûr la déclaration de notre président ce soir.
Alors justement, ça doit s'accompagner aussi de mesures de soutien à l'économie américaine. Est-ce qu'on a une idée de ces mesures ? Je crois qu'on parle de baisse de taxes sur les salaires, mais que son parti n'y est que moyennement favorable.
Alors c'est une demande qu'a formulée Donald Trump effectivement cette nuit, qui a surpris aussi parce qu'on ne l'attendait pas et que les républicains n'apprécient pas particulièrement. C'est encore de la dette qui va s'accumuler sur un pot qui est déjà bien rempli, il faut quand même le dire. Vrai. Donc, ils aimeraient qu'on arrête avec les cadeaux fiscaux maintenant et que l'économie se régule par elle-même. Je crois que Donald Trump a raison. À un moment, il faut faire un signe vis-à-vis des Américains, et particulièrement des salariés, mais il y a aussi les entreprises. Il ne faut pas oublier qu'ils sont très durement touchés. Donc, les propositions doivent encore arriver. Il y a aussi, n'oublions pas tous les malades, puisque le système de santé américain n'est pas l'équivalent du système français. Nous, si on est
il
malade...
Il pourrait faire une initiative sur les arrêts maladie non payés.
C'est exactement ce qui a été proposé également cette nuit, sur lequel planche actuellement le Congrès. Ils essaient, pour un temps donné, et pour cette maladie en particulier, de payer justement les arrêts maladie. Certaines entreprises le font déjà. Déjà, Walmart a annoncé hier, par exemple, que la quarantaine... qui dure 15 jours en réalité, serait pris en charge, la quatorzaine, c'est ça, mais quelqu'un qui serait infecté serait payé pendant 26 semaines, c'est-à-dire 6 mois, rendez-vous compte, c'est pas rien. Walmart propose également à ses employés, qui sont fort nombreux, hein, Walmart est implanté dans l'ensemble des États-Unis, qui ne voudraient pas venir au travail parce qu'ils auraient peur, et ils auraient peur d'être infectés, de pouvoir rester chez eux. À ce moment-là, ils ne sont pas payés, mais ils ne perdraient pas leur emploi. Donc les propositions vont se multiplier très rapidement.
C'est vrai que c'est une entreprise Walmart gigantesque, donc on peut comprendre qu'ils ont les reins assez solides pour le faire, mais pour des plus petites entreprises aux États-Unis, c'est certainement pas le cas.
C'est même très difficile. Le 60% des entreprises sont des PMI-PME, bien sûr, elles ne peuvent pas faire ce genre de choses. Donc il va falloir effectivement trouver un plan de secours pour soutenir les entreprises dans tous les secteurs, hein, parce que désormais, tous les secteurs sont touchés par ricochet. Cet exemple, hein, je parlais avec mon taxi en arrivant, qui me disait, mais on n'a plus personne, on n'a plus de clients. Mais oui, puisque les hommes d'affaires ne se déplacent plus, ne vont plus en rendez-vous, ne prennent plus de taxi. Vous voyez, les tomber en réalité, elles sont partout, et tout le monde aujourd'hui commence à en sentir les effets, ou a peur d'en sentir très vite les effets.
Alors Donald Trump, on le sait, surveille beaucoup les marchés. J'imagine que les réactions de Wall Street ces derniers jours n'ont pas dû lui faire plaisir. Est-ce que ça a pu à un moment lui faire prendre conscience aussi qu'il était temps d'agir?
Et c'est très intéressant parce que ça ne l'a pas empêché de prendre cette décision cette nuit, alors qu'il savait que les marchés allaient mal réagir. Forcément, vous fermez les frontières, vous mettez donc à mal encore de nouveaux secteurs, en particulier le tourisme, les avionneurs, les restaurateurs, les hôteliers, etc. Mais il a quand même pris la décision, ce qui montre bien qu'on se situe sur le plan sanitaire et non pas sur le plan politique ou économique. Mais effectivement, la bourse réagit fort mal à ce qui est en train de se passer, puisque les échanges sont ralentis, et surtout ça efface les bons résultats à Donald Trump. Le Dow Jones, qui est monté jusqu'à 28 000, est redescendu à 23 000. Souvenons-nous qu'il l'a pris à 18 000. Donc, on va peut-être arriver à son niveau plancher, voire plus bas. Va-t-on avoir une crise au niveau de 2007? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Alors qu'on parlait, certains économistes parlaient de récession. Désormais, la récession, elle pourrait être devant. Souvenez-vous, hein, il y a encore un mois, Goldman Sachs expliquait qu'il n'y aurait pas de récession cette année, et que même au contraire, le chômage baisserait jusqu'à 3,2, et que les perspectives étaient excellentes pour Donald Trump jusqu'aux élections. Comme quoi, tout se retourne rapidement. Ceux qui sont dans la bourse le savent parfaitement. C'est jamais acquis et tout peut aller très vite. Là, on en a un exemple criant.
Est-ce que ça peut remettre en cause sa stratégie électorale, lui qui pensait peut-être que sa réélection était déjà gagnée?
Je crois que sa stratégie électorale est à mal, effectivement, puisque elle se base sur deux racines principales, hein, que sont l'économie et la lutte contre l'immigration. L'une et l'autre sont disputées aujourd'hui aux États-Unis, donc il est en difficulté, d'autant que la dynamique est en train de se retourner au profit des démocrates. La primaire, qui avait bien mal commencé pour les démocrates, souvenons-nous, hein, avec une division marquée, avec des ratés dans l'Iowa, on n'avait pas les résultats. Sur le début de campagne des démocrates. Aujourd'hui, ça raconte une jolie histoire de réunion de famille. Tout le monde se réunit autour de Joe Biden, qui devient l'homme providentiel après s'être relevé du néant et avoir réussi à repartir.
Le storytelling est très bon.
C'est vraiment un film américain écrit par Hollywood. On est en plein dedans. Mais tout ça fait une dynamique. Or, la dynamique, c'est ce qui porte une élection. En 2016, souvenez-vous, la dynamique, c'est Donald Trump qui était le sauveur de l'Amérique. C'était le Superman. Méchant garçon, hein, mais quand même Superman. Aujourd'hui, le Superman, il est plutôt bon garçon, c'est le bon gars, c'est Joe Biden, qui lui a annoncé, parallèlement à ce qu'a fait Donald Trump, qu'il mettait aussi au point désormais une cellule pour lutter contre le coronavirus. Écoutez, ça me fait penser à 2008. Vous vous souvenez de cette campagne extraordinaire de Barack Obama, qui avait une dynamique, et en même temps, il y avait cette crise qui s'installait, crise économique. Et quand Barack Obama a été élu, il a dû mettre de côté toutes ses propositions pour s'occuper de la crise qui frappait les États-Unis, bien Joe Biden pourrait se retrouver exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire que les propositions qu'il a pourraient être mises de côté pour s'occuper effectivement de cette crise sanitaire qui va frapper les États-Unis comme le reste du monde.
Comment est-ce que vous expliquez justement cette renaissance de Joe Biden là, au cours des derniers jours, des dernières semaines ?
Alors moi, je ne l'appelle pas réellement renaissance puisque je l'avais annoncé.
Vous l'aviez annoncé, c'est vrai, avant.
J'avais fait un livre et je l'annonce depuis le mois de mars. Je crois que structurellement, ça ne pouvait pas se passer autrement. D'abord parce qu'il y avait beaucoup trop de candidats et qu'on sait qu'aux États-Unis, je vais essayer de le faire simple, mais aux États-Unis, il faut de la notoriété pour émerger. Si vous mettez beaucoup de candidats, eh bien, tous les petits candidats s'empêchent les uns les autres de monter. C'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, parce qu'il y avait un climat anxiogène, et dans le climat anxiogène, on se regroupe plutôt autour des valeurs sûres. C'est le cas en bourse, on en parlait tout à l'heure, mais c'est le cas aussi en politique. Et les valeurs sûres, c'est ceux qui sont là depuis très longtemps. On a vu émerger les plus âgés, hommes blancs du nord-est des États-Unis. Ouais. Donc, c'était les valeurs sûres qu'on connaît, comme d'habitude, ceux qui peuvent gagner. Et puis ensuite, il y avait deux choix qui étaient proposés au Parti démocrate. D'un côté, le radicalisme révolutionnaire de Bernie Sanders, et de l'autre, le côté modéré et centriste de Joe Biden. Le côté modéré rassure. Pourquoi ? Parce que Biden est capable d'aller chercher des voix du côté républicain et donc d'élargir le spectre d'influence du Parti démocrate, et donc le mieux à même de gagner contre Donald Trump. C'était donc assez écrit, en réalité, qu'il sortirait gagnant de ce chapeau.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris, Assas. L'heure H, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout à l'heure à 13h45 l'émission spéciale consacrée à la réunion de politique monétaire de la BCE. Ce sera à suivre sur BFM Business en direct avec Stéphane Pedrazzi. Bonne journée à tous.